Dans Matthieu au chapitre 20, nous allons... on va considérer les versets 1 à 28. C'est-à-dire, wow, on prend une grosse bouchée. En fait, ça se couvre bien. On va lire d'abord les versets 1 à 16 parce que c'est la parabole des ouvriers. Et là, on va vous demander d'être bien honnête. Quand on la lit, là... Avouez qu'on dit c'est pas juste. Moi, des fois, je lis ça, je dis... Dans ma chair, dans mon cœur, ben voyons donc, c'est pas, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que vous. Sylvie, peut-être que ça fait pas longtemps qu'elle l'a lu, mais c'est la parabole où est-ce qu'il y en a qui se font donner. Ils se font pas donner moins, en tout cas, vous allez voir. Mais on a toute cette pensée-là, puis on a une leçon à tirer de ça. Car le royaume, ici, c'est Jésus qui parle. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la sixième heure, et vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Je vous fais remarquer que quand un texte commence par « car », il faut regarder à ce qui précède. Le verset 1, ça dit « car le royaume des cieux est semblable ». Et il disait ça parce que le dernier verset qu'on vient de lire au verset 16, c'était le dernier verset du chapitre 19. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, Jésus explique. Si vous voulez, c'est un commentaire inspiré de la bouche de notre Seigneur même. Une explication détaillée de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Cette expression que les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais j'aimerais qu'on considère ça dans la perspective, puis vous allez voir pourquoi aussi avec la suite de notre texte. La grandeur... Selon l'optique de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on est grand aux yeux de Dieu? Vous allez voir ça spécialement à partir du verset 20, mais vous allez voir aussi que ça a rapport pour ce qu'on considère même à partir du verset 1. D'abord, je vous donne un peu une vue d'ensemble sur ce qu'on va considérer dans les versets 1 à 28 cet après-midi. On voit que Dieu révèle là-dedans c'est quoi la grandeur selon lui, selon son optique, selon lui comment il voit les choses. Et ça, c'est bien en contraste avec comment nous, on voit les choses, évidemment. Et encore une fois, l'enseignement de Jésus ici, là, je vais prendre une expression anglaise qu'on dit au Québec, ça clash. L'enseignement de Jésus, ça détonne, ça contraste avec la pensée, ça se heurte à la pensée des disciples. Parce que là, les premiers seront les derniers. Tu sais, pourquoi il dit ça? Parce qu'il venait d'avoir un monsieur riche qui, selon eux, était béni de Dieu puis qui allait sûrement passer le premier devant Dieu parce que, bon... Fait que déjà, on a vu le message la semaine passée que, whoop, quand Jésus dit, ben non, c'est plus difficile à un riche de rentrer... Ah, excusez, c'est pas comme ça qu'il dit, là. D'ailleurs, j'ai perdu... C'est dans le... Jésus, quand il dit qu'il est plus... C'est ça, un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est tout dans ce contexte-là. Et donc, c'est pas une question sans importance, c'est pas une question insignifiante qu'on va considérer parce que ça a le rapport avec ce qu'on a vu dans le dernier message, le prix pour suivre Jésus. Rappelez-vous, ce jeune homme riche, Il y avait un prix pour suivre Jésus. C'était pas un prix monétaire, c'était un prix de s'humilier et de croire que il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans le fond, ça répond aussi à la question que les disciples pouvaient bien se poser, parce qu'ayant vu ce jeune homme riche, qui dans le fond aurait dû avoir, selon eux, une passe directe pour aller au ciel, se détourner de Jésus, puis tout triste comme ça. Mais ça répond aussi à ce qu'on voit dans chapitre 19, verset 28, quand ça dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, oui, il y en a qui a passé à côté, mais eux se font promettre la récompense. Et ça montre ici vraiment la question qui persistait dans le cœur des disciples. Pour ça que Jésus poursuit sur la même lancée de ce qu'on a vu dans le verset 20, c'est-à-dire pourquoi ceux qui sont riches, supposément favorisés par Dieu, pourquoi ils ne sont pas favorisés après tout? Pourquoi ce jeune homme riche a viré de bord? C'est ça la question qui brûlait dans leur cœur. Bien, on voit ainsi que la question en dessous de ça, c'est leurs attentes. Eux autres, ils s'attendaient, si tu es riche parce que tu es béni de Dieu, donc ça veut dire que tu as la faveur de Dieu, donc tu vas au ciel. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Selon eux, c'était ça la logique. C'est comme ça que le monde pensait à l'époque. Nous, on pense peut-être plus de même avec notre héritage catholique. Tu sais, ah, les pauvres, c'est eux qui ont une place plus pour le ciel. Hein? Dans la pensée catholique, c'est plus ça. Mais c'est à l'époque de Jésus, c'est comme ça. Donc, les attentes, c'est-à-dire ce à quoi nous nous attendons de Dieu. Qu'est-ce qu'on s'attend comme récompense de Dieu? Puis Jésus les amène ici à comprendre, même encore plus, à internaliser la vérité qu'on voit dans Hébreux 11:6, que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. C'est pour ça que notre texte ici est un peu, si vous voulez, un commentaire, comme je le disais, un commentaire inspiré par rapport à la question des attentes. Eux autres s'attendaient à des choses en voyant ce jeune homme riche. Jésus leur dit des choses complètement en dehors de ce qui était leur cadre de référence. Et donc, il y avait des attentes face à Dieu. Mais Jésus voulait internaliser la grande vérité qu'on voit, qui précède notre texte, puis qui est au milieu de notre texte, au verset 16. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Parce qu'il voulait les amener à voir comment les choses fonctionnent dans son royaume. Et on voit... Là, on ne l'a pas lu encore, mais on va voir tantôt. Puis vous connaissez aussi ce passage-là, quand la mère des fils de Zébédée, les fils de Tonnerre, OK? Jacques et Jean, elle va auprès de Jésus, puis « Peux-tu me dire, c'est qui va être assis à droite? » On va voir ça bientôt. Puis c'est quoi la réaction des disciples? Ah, ils étaient indignés. « Oh, vraiment, donc, comment ça qu'ils demandent ça, eux autres? » OK? Puis nous aussi, on peut s'indigner comme ça. Hein? Comment ça qu'il veut la première place? Puis ça, pourquoi rechercher? Puis on voit, il y a quelque chose de mauvais là-dedans parce que Diotrephe, dans 3 Jean, il recherchait la première place, c'était pas bon. OK? Mais la vérité, c'est lorsque nos attentes à nous autres sont déçues, on est toutes pareilles. Puis on murmure contre le maître, comment ça que c'est pas comme je voudrais? Quand c'est les autres qui le font, ils sont méchants. Mais quand c'est nous, c'est pas juste. Avouez, hein? Quand c'est les autres, ben ouais, voyons, ils sont pas spirituels, ils comprennent rien. Mais quand c'est nous, par exemple, on est exactement comme au verset 1, en recevant la récompense, ils ont murmuré contre le maître de la moisson. Donc, c'est ça que je voudrais qu'on regarde, la question de nos attentes face à Dieu, de comment ça marche avec lui dans son royaume. Et Dieu lève ainsi le voile sur nos désirs. Qu'est-ce qu'on recherche le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous autres? C'est ça, nos attentes. OK? Et je pense que, si on est honnête, avec un texte de main, on voit que, oh, mes amis, on est conforme au siècle présent, puis on a besoin d'être renouvelé, transformé par le renouvellement de notre intelligence. Alors que le Saint-Esprit puisse nous appliquer ces choses à notre cœur avec simplement 3 attentes qu'on va voir, qui nous enseignent la grandeur selon l'optique de Dieu. D'abord, au verset 1 à 16 qu'on a lu, cette parabole, l'attente déçue. L'attente déçue. Vous avouez que c'est toute qu'une image ici de l'attente déçue. Ils s'attendaient, oh, hey, là, ils ont eu un denier, on travaille juste non, on va avoir peut-être 12 deniers ou 11, je ne sais pas comment ils faisaient le calcul, mais il y avait des calculs qu'ils faisaient dans leur tête parce que ils ont été déçus. Leurs attentes ont été déçues. Et comme je dis, on a cette pensée instinctive quand on voit ça, on dit c'est pas juste, voyons donc. OK? Et c'est précisément là que le Seigneur voulait les amener. C'était exactement le point de la parabole. Il voulait faire sortir ce qui était dans leur cœur, de dire voyons donc, c'est pas juste. Puis là, c'est là qu'est la leçon. Donc, en gardant ça en tête, je vais vous donner une couple d'explications. La parabole ici soulève non seulement la question des attentes déçues, OK? Mais aussi le fait que Dieu rémunère la foi. Parce que tous ici dans la parabole ont reçu un salaire pour leur travail. OK? Donc on voit la fidélité de Dieu puis sa justice à rendre à chacun selon ses œuvres, à chacun selon ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Mais là où on voit qu'il y a un problème, c'est que les ouvriers qui avaient travaillé plus, au verset 10, les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. C'est là qu'il y a un problème. C'est là que ça clash. C'est là que ça heurte. Et ça nous amène au verset 11. Ils sont mis à murmurer. Parce que leurs attentes étaient déçues, ils se sont mis à murmurer. Puis en recevant, alors qu'ils étaient récompensés, c'est même à ce moment-là qu'ils se sont mis à murmurer contre le maître. Pourquoi? Parce que leurs attentes étaient déçues. Ils n'ont pas eu ce qu'eux autres pensaient devoir recevoir. Puis ils s'en prennent à lui, qui pourtant, verset 13, leur répondit, « Mon ami, je ne te fais pas tort. » Est-ce que c'est vrai qu'il ne faisait pas du tort? N'avons-nous pas convenu d'un denier? Puis même il poursuit plus loin, ne vois-tu pas, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon, verset 16. Avoue qu'on a de la misère, avoue qu'on a de la misère avec ça pareil. C'est pas dans notre. Mais c'est ça le point que Dieu, ici, veut amener. Bon, j'explique un peu plus, je pense qu'on va tous arriver à comprendre ici, je pense que ce que Jésus veut communiquer. On doute de la bonté de Dieu parce que nous nous attendons à quelque chose de lui, à ce qu'il fasse les choses d'une certaine façon, c'est-à-dire pour servir nos intérêts. N'est-ce pas l'idée ici du désir de vouloir avoir plus parce que les autres y ont fait moins? Mais quand, comme ici, les attentes sont déçues, quand Dieu ne répond pas comme on voudrait, on en déduit faussement que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas juste, que Dieu, il y a quelque chose de pas correct avec ses voies, avec ce qu'il fait. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à dire que Dieu n'est pas bon, mais on dit ce qu'il fait, par exemple, c'est pas bon. Mais ça revient à dire qu'il n'est pas bon parce que quelqu'un qui est bon ne fait que du bien. Mais on ne le croit pas. Ainsi, on voit d'un mauvais œil la bonté même de Dieu. Et comme en Éden, mes amis, comme dès le moment de la chute où nos premiers parents ont cru le mensonge que Dieu les privait de quelque chose de bien, ils ont cru ce mensonge-là. Ils ont cru que Dieu les privait de quelque chose qui pouvait être meilleur, puis tout ça pour eux autres, parce que c'est ça que Satan leur faisait luire devant Dieu. Ça leur a fait remettre en question la bonté même de Dieu. Et c'est pas une petite chose. Dès la chute, la chose, le trait de caractère de Dieu qui a été mis en doute par Satan lui-même, c'est le fait que Dieu est bon. Pensez-vous pas qu'il y a encore de la suite des idées, puis c'est pas aussi ce qui veut nous faire penser avec ce qu'on peut voir, ce qu'on peut vivre, ou est-ce que nos attentes sont déçues? Puis là, on va en déduire, Dieu à quelque part est pas bon, ce qu'il fait, c'est pas bon. Puis le verset 10 est révélateur, parce que ça dit, les premiers vinrent ensuite, une fois que celui qui était dernier avait reçu un denier, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent chacun un denier. Ça révèle le piège des attentes déçues. C'est-à-dire de s'attendre à des choses au-delà de l'entente avec Dieu. Il y avait une entente qui avait été prise, n'avons-nous pas convenu? Hein? Ça avait été dit. Vous savez quoi, c'est quoi l'entente qu'on a avec Jésus-Christ pour le suivre? L'entente, là, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, puis qu'il me suive. C'est ça, l'entente. Il n'y a pas grand-chose de... Hey, wow, c'est gagnant, puis tout ça. Mais c'est comme ça que Jésus a mis l'entente. Vous voulez me suivre? C'est ça. Est-ce qu'après, il parle de récompense? Absolument. Il dit, hey, vous allez juger les tribus d'Israël, puis tout ça. Évidemment que Dieu... Tu sais, juste la récompense de la vie éternelle, c'est infini, c'est incroyable. Mais c'est ça l'entente. Et donc, on devrait voir tout ce qui est au-delà comme de l'extra et une grande démonstration. Déjà, l'entente de base est bonne, le reste, c'est juste encore plus la démonstration de la bonté de Dieu. Notre problème, c'est lorsqu'on s'attend à plus que l'entente. L'entente de base. Parce que, mes amis, on a tous un peu une flamme d'évangile de prospérité dans nos cœurs, à quelque part. On aime bien ça, avoir les bonus, n'est-ce pas? Pas moi, hein? Ça l'appelle à la nature humaine. Pourquoi qu'une affaire comme l'évangile de prospérité, c'est tellement populaire? Parce que ça fait appel à quelque chose dans la nature humaine, n'est-ce pas? Et bien que Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, nous dit, on s'entend-tu là-dessus l'après-midi? Là, Dieu nous donne bien au-delà de juste la vie éternelle, n'est-ce pas? Ouais. Hey, si on compte nos bénédictions, là, comme ça dit dans le chant en anglais, là, compte les bienfaits de Dieu, là, mais en français, c'est pas moi qui l'ai appelé, je sais pas pourquoi. Là. On a bien au-delà de l'entente de base, mais on regimbe lorsqu'on se compare à ceux qui ont plus. Soit matériellement ou spirituellement. C'est quand on se compare, c'est ça ici. En ayant regardé les autres, eux autres pensaient. Ils ne regardaient pas à leur maître. Ils ne regardaient pas à celui qui leur avait dit. C'était ça le problème. Leurs attentes étaient en fonction de regarder les autres. Puis là, ils ne regardaient plus à celui qui est leur récompense. Je vous dis, il y a des leçons riches là-dedans. Et mes amis, c'est insensé, c'est égocentrique, c'est incrédule, et c'est certainement pas christique de penser de même. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur se comparer? Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. On manque d'intelligence quand on commence à se comparer de même. Donc, ayant donné ces explications, voici la question que je pose. À quoi tu t'attends de Dieu? Comment est-ce que tu réponds lorsque tes attentes sont déçues? Lorsque Dieu n'a pas fait ce que tu voulais ou pas comme tu aurais voulu qu'il fasse, est-ce que tu te mets à douter de sa bonté? Si oui, rappelle-toi que c'est comme ça que tu es en train d'accomplir le dessein de Satan lui-même à ton égard. Puis celui de Dieu duquel il veut attaquer la réputation. Satan, en faisant ça, il veut montrer, parce que lui, il s'attaque à Dieu. Puis quand tu rejoins, quand tu les attends déçus et que tu ne réponds pas de la bonne manière, qu'est-ce que je fais? Je m'attaque à la réputation de Dieu, puis Satan ne demande rien de mieux. Non, un enfant de Dieu mature voit au-delà de l'attente déçue, il voit le Dieu qui change le mal en bien. Il voit le Dieu qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Puis que ces choses-là l'amènent à être conforme à l'image de Christ. Il voit que ses attentes déçues sont des instruments dans les mains rédemptrices de notre Dieu tout-puissant, souverain. Wow! Deuxième attente. Non seulement les attentes déçues, mais dans les versets 17 à 19, on a l'attente différée. Regardez versets 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » L'attente différée. Qu'est-ce qu'ici on a devant les yeux? Le roi d'Israël, Jésus, le roi légitime, fils de David, révèle ici sa pensée sur c'est quoi la grandeur selon l'optique de Dieu. Puis c'est pas du tout en harmonie avec ce que les hommes pensent, puis même ce que ses disciples pensaient. Il y avait encore là un choc des idées. Le mot du jour, c'est clash. Il y avait encore, ça heurtait. Pourquoi? Parce que là, il s'en allait à Jérusalem. Dans la tête de tout, dans le cœur de tous les disciples, c'était de voir l'apocalypse, le dévoilement. de la gloire de leur roi. On s'en va à Jérusalem, c'est à la ville du roi, ça y est. Enfin, le moment où notre maître va se révéler tel qu'il est. C'était ça qui était dans chacun de leurs cas. C'était à ça qu'ils s'attendaient. D'ailleurs, Jésus leur en a donné un peu pour leurs argent. Dans ce sens-là, il a lui-même arrangé son entrée triomphale à Jérusalem. Mais je dirais triomphale. Sur le dos d'un âne. Ça a été prophétisé dans Zacharie. C'est exactement ce qui devait arriver, mais c'était pas glorieux comme sur un cheval blanc puis tout ça. C'était pour montrer son humilité. Puis c'est ça la prophétie de Zacharie. On va voir ça quand on va être rendu là la semaine prochaine. Il est rentré triomphalement, mais humblement. Mais c'était pas selon les attentes, encore là, des disciples de la foule des hommes à Jérusalem. Parce que lui qui pensait, il pensait probablement qu'il allait rentrer en conquérant et glorieux, il est rentré humblement. Et n'est-ce pas que la Bible nous dit dans Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix... Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Leur concept de la gloire était terrestre, il était temporel, tandis que celui de Dieu était spirituel. La gloire, la conquête de Christ était la croix. Puis la croix, c'est un instrument de mort, c'est un instrument de honte. Mais c'était ça, la conquête de Christ. C'est comme ça qu'il rentrait comme roi à Jérusalem. C'était l'ultime démonstration de la gloire de Dieu. J'ai fait référence ce matin, quand dans Jean 12, il y a des Grecs qui demandent de voir Jésus. Ça, c'est drôle en anglais, ça dit « Sir, we would see Jesus ». Ça fait comme un peu « Sir », tu sais, ils ont l'air des gars avec leur complet veston. « We would see Jesus ». Ça fait « gentleman », je trouve, comme... Fait que là... C'est André puis pas Pierre, Philippe, qui vont voir Jésus. « Hey, il y a des gars qui veulent te voir. » Là, j'ai dit « Mon âme, Jésus, il dit « Mon âme n'est pas venu. » C'est quoi son âme? Puis là, qu'est-ce qui a révélé Christ? C'est quoi son âme de gloire? C'est la croix, verset 32. Il dit « Quand le Fils de l'homme... » Attends, je vais vous lire verset 23. « Jésus leur a répondu, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Verset 32, « Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est quoi l'heure de gloire de Christ? La grande gloire qu'il a démontrée à Jérusalem, c'était pas une entrée sur un cheval blanc avec une grande armée qui suivait, c'était la croix du calvaire, la conquête du péché, la conquête de la mort. Et c'est ça qui est arrivé lorsqu'il est monté sur la croix. Et remarquez ici au verset 17, ça nous dit qu'il a pris à part les disciples. Il les a pris à part les douze disciples, les douze apôtres, alors qu'ils étaient en chemin. Il a pris la peine de leur dire à eux spécifiquement ce qu'ils allaient faire. Pourquoi? Je pense qu'ils voulaient contrer le problème des attentes différées. Ils s'attendaient à quelque chose, il a pris la peine de leur dire « Hey, là on s'en va, là, puis c'est ça qui va arriver. » Est-ce que ça sonne comme une entrée glorieuse? On monte à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Méchante entrée triomphale, hein? Il les a pris en part pour leur dire ça. Pourquoi? Parce qu'il les préparait à ce qui allait arriver. Il défaisait leur attente. Il était bon en faisant ça, il révélait sa pensée, son plan. Avant même qu'il arrive. Eux s'attendaient à une gloire immédiate, à une entrée triomphale. Mais il les préparait une gloire différée. Une gloire, certainement, mais pas à leur façon, puis pas à leur temps non plus. Est-ce que la gloire de la croix n'est pas infiniment plus grande que juste qu'ils soient rentrés à Jérusalem sur un cheval? Je veux dire, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'ils soient rentrés sur un cheval à Jérusalem. Mais qu'ils soient allés sur la croix, puis qu'ils aient vaincu la mort, ses ennemis, puis le péché, ça l'a tout changé. C'est une gloire bien supérieure, mais différée. C'était pas au moment puis à la façon que les autres seraient imaginés. Pas pantoute. Vraiment pas. Le problème de l'attente différée, c'est qu'on est conforme au siècle présent. Et qu'on comprend pas. On est transformé dans le renouvellement de notre intelligence pour comprendre que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. On recherche pas la même chose que Dieu. C'est ça le problème de nos attentes différées. Évidemment, nos attentes sont différées, on ne cherche pas la même affaire que Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel? N'est-ce pas que c'est arrivé à notre ami Job, qu'il fallait qu'il s'attende à l'Éternel, même si tout allait absolument... On parle d'attente différée, là, attente déçue, attente différée. Je pense qu'il y a eu le gros lot, notre cher Job. Mais Dieu avait une plus grande gloire pour lui après. Là, je parle de Job, je parle de Christ aussi. Et ça nécessitait obligatoirement de passer par où Dieu voulait qu'il passe, c'est-à-dire la souffrance. La souffrance pour Job, la souffrance de la croix, la séparation de Dieu, le Père avec Dieu, le Fils, la colère de Dieu qui tombe sur le Fils, fallait que ça passe par là. C'était obligatoire, il n'y avait pas d'option. Fait que tu avais beau t'attendre, ça ne dérange pas, le plan de Dieu, il n'y en avait rien qu'un, puis c'était juste lui. Si nous, ça ne va pas avec nos plans, c'est, je veux dire, c'est nous le problème. Maintenant, écoutez bien, j'ai une application importante. La paix, la joie, le contentement vient lorsque nos attentes sont divergées, lorsqu'on s'humilie, qu'on s'arrête, ou je devrais dire qu'on arrête de résister puis d'insister. C'est-à-dire que j'arrête de résister à la volonté de Dieu puis d'insister sur la mienne. C'est là que la paix, la joie puis le contentement vient. Quand je crois que Dieu a un meilleur plan que le mien, aussi génial semble-t-il, aussi logique, aussi bon semble-t-il. N'est-ce pas vraiment, je veux dire, pensons-y ce qui arrivait là. Alors qu'eux autres s'imaginaient peut-être une coronation à Jérusalem, puis tout ça. N'est-ce pas mieux que Christ a été couronné comme roi éternel de gloire, ayant vaincu tous ses ennemis, ayant triomphé de la mort du tombeau? C'était tellement mieux. Et c'est pareil encore pour nous. Si seulement on s'attend à Dieu. Ça m'amène à la troisième et dernière attente. L'attente déçue, l'attente différée. Maintenant, l'attente différente. L'attente différente, versets 20 à 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. » Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. » N'est-ce pas qu'on vient encore, Christ est la mesure de tout. Pourquoi est-ce qu'on aurait des attentes comme ce qu'on voit ici? Parce que Christ, c'est ce qu'il a fait. Il est la mesure. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Maintenant, l'attente différente. OK, ici, on s'entend, là. Il y a un petit moment peut-être un peu inconfortable. La mère avec les fils s'en vont voir Jésus, puis ils font une demande. Puis bien qu'on puisse voir de l'orgueil là-dedans, puis certainement, il devait bien l'avoir, mais on peut aussi voir de la foi. Parce qu'il dit quand... Parce, oubliez pas, là, tout le monde pensait que là, c'était le royaume qui était sur le bord d'arriver, là. Fait que là, vous voyez déjà pas mal ça sur le bord de régler. On a une petite question, tu sais, là, c'est une question de temps, là. Tu vas tout établir ton règne à Jérusalem, là. Mes fils peuvent peut-être... Comprenez-vous? Ils voyaient quand même. Ils croyaient aux promesses, là. Ce qu'ils comprenaient de Dieu, là. Bon, on s'entend, ils étaient mêlés, là. Il n'y avait pas tout... Mais je ne pense pas qu'on aurait été mieux qu'eux autres. Mais il y avait quand même la foi que Jésus allait régner, là. Fait qu'on peut quand même leur accorder ça, OK, en partant. Puis... Aussi, les deux disciples considéraient déjà que Jésus était roi, puis que l'établissement de son royaume n'était qu'une question de temps. Puis quand on continue dans les versets ensuite qu'on a lus... Il y avait même un peu la folie ou l'insouciance de leur foi. Tu sais, quand il dit, savez-vous quelle coupe que je dois boire? Puis êtes-vous capable d'apprendre? Oui. C'est-tu par la foi ou la folie? Je sais pas trop lequel des deux, mais pareil, tu sais, je veux dire, on peut dire qu'OK, il était game, les gars. Puis effectivement, j'ai dit oui, vous allez la boire parce que Jésus s'en allait vers la mort. Ils sont morts aussi à cause de leur foi en Christ, OK? Bon, fait qu'on peut peut-être faire des reproches, mais aussi on peut peut-être reconnaître qu'il y avait quelque chose qu'ils reconnaissaient en Jésus, puis ils étaient prêts à le suivre. Maintenant, on comprend aussi où et en quoi ça consiste l'attente différente. C'est-à-dire que ceux qui sont animés d'une pensée terrestre et humaine, OK, les gars, là, ils ont bien beau, OK, ils voyaient des choses par la foi, mais ils voyaient les choses beaucoup selon ce qui allait arriver à Jérusalem, là, terrestre. Jésus, lui, voyait les choses du point de vue céleste, divin. Jésus voyait son royaume éternel, il voyait la croix, OK? C'est pour ça qu'il y avait vraiment une différence entre les deux. Et c'est d'où l'idée de la grandeur selon l'optique de Dieu. C'est pas pareil. Eux autres, la grandeur, c'était, hey, là, le roi, il rentre, il arrive à Jérusalem, puis il se débarrasse des Romains. Waouh, ça, c'est quelqu'un. Non, la grandeur de Jésus, c'était, il venait comme serviteur, puis mourait, même pour ses ennemis. Puis, c'était ça, la grandeur. Puis là, j'aimerais avancer que, non seulement il y a là une différence fondamentale entre la pensée humaine versus la pensée divine, la grandeur selon Dieu versus la grandeur selon l'homme, mais aussi une grande différence entre nos attentes versus les attentes de Dieu, si je peux dire autrement, ou pour le dire autrement, entre nos plans versus le plan de Dieu. La vie chrétienne consiste fondamentalement à quoi? S'abandonner, délaisser nos plans, tous nos plans, toutes nos attentes pour ceux de Dieu. Écoutez bien le verset que je vais vous lire. « En lui aussi, devenu héritier, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. » Si on est sauvé, on n'est pas, c'est pas notre plan. On est dans le plan de Dieu. On est dans quelque chose de bien plus grand que nous autres, puis qu'on ne peut même pas comprendre. Ça dépasse l'intelligence humaine. Et le but de la vie chrétienne, c'est se conformer à ce plan, puis dire, « Seigneur, mes plans sont secondaires, sont pas importants. Si j'ai des idées, s'ils ne sont pas accomplis, c'est pas grave. L'important, c'est que les tiennes s'accomplissent. » C'est ça, la vie chrétienne, c'est arrimer ça. Non ma volonté, mais la tienne. Maintenant, que c'est seulement par orgueil ou par incrédulité, quand on comprend ça, qu'on va insister sur nos plans. Ou qu'on va résister à ceux de Dieu. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Si j'insiste sur mes plans, ou je résiste à ceux de Dieu, ben mes attentes vont être déçues, mes attentes vont être différées. Pourquoi? Parce que j'ai des attentes différentes de celles de Dieu. C'est ça l'idée, des attentes différentes. Évidemment que ça ne sera pas pareil entre moi et Dieu, entre les plans humains et les plans divins. Puis, ça va toujours l'être. Ça va toujours être de même. Pourquoi? Parce que les deux sont diamétralement opposés. Les plans humains puis les plans divins, les voies de Dieu puis les voies, on l'a eu, hein? Les plans de Dieu, ses voies, ses pensées, bien au-dessus, bien au-delà des nôtres. On se donne de la misère avec ça, mes amis, à vouloir insister sur nos plans, résister à ceux de Dieu, mais je veux surtout rappeler que la paix puis le repos vient lorsqu'on cède nos plans à sa volonté sainte. N'est-ce pas ce qu'on chante? J'ai cédé mes plans à sa volonté sainte. La paix vint, je n'eus plus de crainte. C'est là que la liberté, c'est là que la paix. Il est parti. J'ai une illustration de détenu. Vous savez qu'on peut apprendre de quoi, de n'importe qui, il faut juste être prêt. Et j'apprends beaucoup avec les détenus. J'apprends des fois des affaires que j'avais peut-être pas besoin d'apprendre. J'ai appris sur des affaires sur le pusher de la drogue, puis tout ça, puis que des fois, des pusheurs de drogue se font payer en viande puis en fromage parce que le gars, il a pas d'argent, puis il vole. Bon, pas si vous saviez ça, là, mais j'ai appris ça cette semaine. Mais j'ai appris quelque chose aussi de très intéressant. Un détenu, dans le camp duquel Dieu travaille beaucoup, il me dit qu'il y avait comme deux possibilités pour son apparence, court appearance. Il parle en anglais, excusez. Là. Son appel, quand il va aller en cours. Okay? Il dit qu'il y a comme deux possibilités, puis il dit, sais-tu que ça peut être quelque chose de dangereux d'avoir de l'espoir en prison? Parce qu'il dit, mettons, je me dis, hey, oui, j'espère que ça va arriver. Puis boum, ça n'arrive pas. Il dit, ça peut être dangereux, je peux être déprimé, découragé. Puis... Mais voici ce qu'il a dit. Il dit, je m'attends à Dieu. Puis je vais accepter, peu importe, parce qu'il y avait comme une bonne possibilité, puis une autre, tu sais, une qui est vraiment, il allait avoir tellement moins de temps, puis tout ça, puis l'autre plus. Il dit, je vais m'attendre à Dieu, puis je vais prendre le résultat comme étant sa volonté. Je vais te dire, c'est, j'ai trouvé ça pas mal bon, j'ai pris des notes. Il dit, tu as tout compris. Ça, c'est quoi? Il s'attend à Dieu. Est-ce que ses attentes vont être déçues?
Non.
Ben, s'il s'attend à Dieu, il dit, je vais prendre ça comme sa volonté. Et donc, par la foi, il fait confiance que la volonté de Dieu, peu importe ça va être quoi, ça va être la meilleure affaire. Hey, j'ai un verset que... Il n'est pas allé aux toilettes au bon moment parce que c'est le verset que Mylène a mis sur le cadre que tu as donné à Jim Jones. Ça dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Se confier en l'Éternel, je ne sais pas en d'autres versions françaises comment ça le dit, mais en anglais, ça dit qu'ils s'attendent à l'Éternel. « Wait on the Lord. » Écoutez aussi le psaume 25. « Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent, qui s'attendent, qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Et je vais prendre le temps de vous lire un de mes passages préférés de la Bible. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Voyez-vous comment ça parle de la bonté de ce qui est bon? Ce qui est bon, c'est ce que Dieu veut. Puis ici, ça parle d'espérance puis d'attente. Ça, c'est placé à la bonne place. Quand mon espérance est à l'Éternel, quand je m'attends à lui... Je ne serai pas déçu parce que je vais prendre tout ce qui arrive comme étant sa volonté. Ces versets sont précieux. Pourquoi? Parce qu'ils nous ramènent à la bonne, nos attentes à la bonne place. Ils alimentent les bonnes attentes en Dieu et ils diminuent nos attentes, nos plans. Et ça m'amène à souligner quelque chose qu'on a lu, mais je veux juste mettre l'accent là-dessus dans notre texte à la fin. Quand Jésus les a appelés, OK, après que les disciples se soient indignés de ce que les fils de Zébédée puis leur mère avaient demandé à Jésus, Jésus les a appelés puis a dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Jésus ramène tout à lui-même, là aussi ça doit, comme ça doit l'être. Et c'est aussi, on doit tout ramener à la lumière de l'œuvre de Christ, de la personne de Christ. C'est quoi notre tendance? C'est l'inverse. On veut tout ramener par rapport à nous autres. On est le centre de notre univers. C'est pour ça que nos attentes sont déçues. On s'attend que Dieu soit un satellite dans notre univers qui va aider à aligner les planètes de la bonne façon. Mes amis, c'est du paganisme pur et dur, ça, là. C'est que c'est de l'astrologie, là, puis on ne croit pas ça comme chrétien en passant, là. OK? Non, Dieu est le centre de l'univers. Puis Dieu, c'est lui qui fait toutes choses pour lui. Ça donne juste très bien qu'on fait partie de ça, puis on devrait juste être content de ça, puis si on a d'autres choses, c'est pas grave, on doit juste s'attendre à ce que Dieu fasse son plan dans nos vies, puis ça c'est assez pour qu'on soit content. Fait qu'au lieu de ramener tout à nous-mêmes, qu'on ramène tout à Jésus-Christ, qu'on le voit partout dans les Écritures, qu'on le voit partout dans notre vie, c'est lui qui est la mesure de toutes choses. On a vu mercredi, pourquoi on se pardonnerait les uns les autres? Pourquoi on se pardonnerait quand c'est dur de se pardonner, quand c'est pas humain de se pardonner? Parce qu'on a été pardonné en Jésus-Christ. C'est ça la mesure. Pourquoi on ferait n'importe quoi? Parce que c'est en Jésus-Christ que ces choses-là, c'est les réalités ultimes qui sont en Jésus-Christ. Et ici, quand ça parle au verset 27, tu vas être le premier que tu sois l'esclave. Jésus a dit qu'il n'est pas venu, il est venu comme un esclave, il est venu pour servir, il est venu comme étant pas de volonté, comme n'ayant pas de volonté, mais comme faisant la volonté de son Père. Il est venu en n'ayant aucune volonté propre, si je peux m'exprimer ainsi, mais en faisant 100% celle de son Père. Donc si par l'humilité et la foi, on est saisi, on est rempli de cette pensée, de ces sentiments qui est en Jésus-Christ, Camille. Tu es en train de méditer là-dessus, elle apprend à Philippiens 2. Ça va nous remplir de la bonne pensée, de la motivation qui va faire en sorte que peu importe ce qui arrive, on va l'accepter comme étant la volonté de Dieu. Mes amis, c'est ça la grandeur selon l'optique de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps à tes pieds. Merci que dans les évangiles, on t'entend toi-même, on te voit. On voit comment tu as interagi avec les disciples. On se reconnaît, il y a quelque chose de foncièrement humain, proche. Tu es venu sur Terre, t'interagissais avec des personnes comme nous. On se reconnaît dans des caractères des disciples. Merci Seigneur, qu'il y a tellement quelque chose de précieux là-dedans. On voit comment tu étais patient, tu étais sage, tu les amenais exactement là où tu voulais les amener. Merci qu'on a eu part à ça après-midi. Seigneur, tu avais quelque chose à nous dire à chacun. Merci pour ça. Maintenant, on veut juste invoquer ta grâce pour ce que tu nous as montré, que tu puisses l'accomplir dans notre vie. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Tu vois comment on lutte avec les attentes. Comment on n'aime pas que nos attentes soient déçues. Comment on trouve ça pas juste quand nos attentes sont différées. Comment on a plus de sympathie avec ces travailleurs qui se sentaient brimés qu'avec le maître qui était bon et qui avait décidé de faire comme il avait convenu et d'user de bonté envers ceux qui n'avaient pas beaucoup travaillé. Seigneur, merci de nous avoir enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.